Le Grand Débat avec Francis Laloupo et la participation de Guy Calenda.
Après 50 ans, dont 38 passés sous le règne du général Eyadémar, qu'a fait le Togo de son indépendance? Son fils Faure Yacine-Bey, qui entame aujourd'hui son deuxième mandat, a-t-il permis une rupture avec l'ancien régime? Et comment expliquer l'incapacité chronique, dirions-nous, du pouvoir, plutôt de l'opposition, à faire aboutir des stratégies de prise du pouvoir, donc à faire aboutir les projets d'alternance au Togo? Nous allons en parler donc aujourd'hui avec nos invités, Kofi Alouda, président du bureau provisoire du mouvement de libération du Togo, le Molito. Monsieur Kofi Alouda, bonsoir.
Bonsoir.
Alors c'est nouveau le mouvement de libération du Togo, non?
Oui, c'est tout à fait nouveau.
Oui.
Parce que ça dépend du contexte.
C'est un mouvement qui est installé où? Ici ou au Togo?
Il est installé au Togo et il va avoir des représentations un peu partout dans le monde. Et en particulier au Togo.
Bon, ok, ben on va y revenir tout à l'heure. Je dois dire que le Molito, donc, oui, comme vous le disiez, a été fondé mais très récemment.
Très récemment, tout à fait.
Très récemment, oui. Par des associations de la diaspora togolaise, d'abord.
Absolument.
Avec le soutien de partis politiques français.
Et des organisations de la société civile.
Et parmi ces partis politiques français, il y a notamment le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot.
Tout à fait.
Bon, donc, on situe bien, évidemment, les soutiens pour contribuer, dit ce parti. Enfin, c'est plutôt le Molito qui dit qu'il faut rompre avec le cycle des élections truquées.
Tout à fait.
Voilà, donc l'objectif est tout à fait fixé.
J'ajouterai quand même quelque chose, c'est que vous avez situé très très à gauche, c'est plus large que ça. Il y a aussi, on a aussi le soutien des Verts, voilà.
Donc, il fallait le préciser.
Ils ne sont pas si à gauche que ça.
Il fallait le préciser, mais ce n'est pas honte, hein, vous savez, d'être très très à gauche.
Tout à fait.
Également avec nous, M. Camille Lawson-Body, qui est président de Synergie Togo. M. Lawson-Body, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes par ailleurs expert comptable dans un cabinet parisien. Et Synergie Togo a été créée en septembre 2008.
Tout à fait.
Pour défendre les droits et les intérêts de la diaspora togolaise dans les pays d'accueil et au Togo.
Tout à fait.
Et on sait que l'année dernière, vous avez lancé un mouvement, une campagne qui était intitulée « Bien compter », je crois.
Mieux voter, bien compter et vrai restituer.
Voilà, c'est dans la perspective des élections.
Justement des élections qui viennent d'avoir lieu au Togo.
Qui ont eu lieu au Togo récemment. Et c'était pour veiller à la transparence du scrutin donc du 4 mars dernier au Togo.
Parfaitement.
Voilà, première question rituelle pour vous, c'est la question rituelle dans cette émission. Alors, nous sommes à l'heure du cinquantenaire des indépendances au Togo. Pour vous, est-ce l'heure de la fête, du bilan ou du projet? Kofi Alouda.
Alors, je dirais, c'est moins la fête du bilan que du projet. Ce n'est même pas encore de projet, parce que pour nous, l'Afrique n'est pas libre. Donc, s'il y a projet, c'est le projet de libération de l'Afrique, et notamment du Togo.
Donc, c'est le temps d'y penser, c'est ça?
Voilà, absolument.
Camille Lawson-Body?
Je suis tout à fait de son avis. Je trouve que l'indépendance, ça va être, c'est devant nous et pas derrière nous, en fait. Parce que l'Afrique n'est pas encore libre et il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ok, mais on va au Togo. Et il faut rappeler qu'en 50 ans, le Côte de Togo a été dirigé de 67 à 2005 par le général Eyadémar. Comment peut-on aujourd'hui analyser les particularités ou la culture de ce régime? Camille Lawson-Body.
Écoutez, je pense que ce qui s'est passé au Togo depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio en
63,
en effet, je pense que le bilan, quand on regarde ce qui s'est le Togo, l'état du Togo aujourd'hui, on a compris ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et le régime en place a travaillé sur des aspects qui permettent de conserver le pouvoir. Et c'est ce qui nous a, c'est ce que on nous a servi pendant toutes ces années au Togo.
Que reste-t-il de la mémoire collective des Togolais de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui était considéré comme le crime fondateur du régime qui dirige le pays jusqu'à ce jour?
Oui, en effet. Rappelons d'abord que l'assassinat de Sylvanus Olympio, donc ce coup d'État, est le premier qui a été perpétué dans toute l'Afrique.
Après les indépendances.
Après les indépendances.
En 63.
Voilà. Et je pense que pour les indépendances, quand on veut parler d'indépendance, il faut parler de trois éléments essentiels à mon avis.
Oui.
C'est, il faut que le pays soit politiquement indépendant, oui, économiquement indépendant, et qu'il puisse assumer la protection de son territoire.
Sa sécurité.
Voilà, sa sécurité. Et je pense que Sylvanus Olympio a posé des bases de ces trois concepts, en tout cas les deux premiers, notamment la situation politique, où il a remboursé la dette qu'il devait à la France, oui. Puisque le Togo était sous protectorat français. Oui. Donc pour se débarrasser de tout lien politique, donc oui. il a assumé cette partie-là, et ensuite au niveau économique, il a commencé à poser des bases du développement économique.
Il faut dire que le Togo a connu trois types de domination, anglaise, allemande et ensuite française.
Hein. Tout à fait, oui. Avant la première guerre, ensuite entre les deux guerres et enfin la France qui a été notre protecteur, on va dire, jusqu'aux indépendances. Oui. Et malheureusement, tout ça s'est arrêté en 63 et nous n'avons jamais pu trouver les bases à poser pour arriver à libérer le Togo, je dirais, de ces éléments. Et ça, c'est un peu dommage pour nous.
Kofi Alouda.
Oui, alors moi je pense que la particularité du Togo, c'est d'abord le crime fondateur du régime. C'est, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est le premier pays qui a fait assassiner un dirigeant. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que c'est aussi le premier pays qui a voulu avoir une réelle indépendance à travers l'économie. Oui. Monsieur Olympio, Sylvanus Olympio, d'après les informations qu'on a, c'est que il a voulu même faire battre monnaie. Et quand on sait le rôle de la monnaie dans la libération d'un pays, on comprend que ça ne puisse pas passer. Oui. Donc il y a ces deux aspects. Le fait qu'il y ait un crime qui a été perpétré. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a aussi quand même des crimes qui ont été perpétrés dans d'autres pays. Et malgré cela, il y a eu quand même des alternances. Le cas du Togo est différent à cause de la velléité réelle, parce que on peut avoir changement sans changement de régime, sans qu'il y ait changement de politique. C'est ça. Au Togo, c'est que le changement de régime va impliquer réellement le changement de politique. Et ça, ça ne va pas, ce n'est pas dans l'intérêt des groupes mondiaux, des multinationales qui dirigent le monde. Et donc, il y a en plus ce critère-là. Il y a un autre critère, c'est que il y a aussi une tendance anglo-saxonne au Togo. Oui. Vous savez que il y a une partie du Togo qui a été annexée au Ghana. Oui. Et vous savez que Sylvanus Olympio aussi avait aussi, d'après ce que l'histoire nous dit ou même la presse nous dit, avait aussi des velléités anglo-saxonnes. Et ça aussi, ce n'était pas bon pour.
C'était pas du goût de l'ex-puissance coloniale française.
Tout à fait. Voilà. C'est tous ces paramètres conjugués qui font que le cas du Togo est devenu plus critique. Souvent, on remet ça sur la question ethnique. Non, puisqu'il y a des ethnies partout. Mais le cas du Togo est quand même plus critique que les autres pays.
Est-ce qu'on peut dire que le régime de Yadema a été aussi la garantie du maintien de l'influence française au Togo?
Ah, absolument, ça, on peut l'affirmer. On peut l'affirmer, surtout que le pays, comme je vous l'ai dit, a de réelles velléités, de réelles indépendances.
Mais quel est le bilan de ce régime, finalement, au bout de, maintenant, au-delà de 32 ans, puisque après 32 ans, du général Yadema, c'est son fils qui a pris le pouvoir dans les conditions que l'on sait, que vous allez nous rappeler, d'ailleurs. Hein. Rappelez-nous donc ces conditions-là, puisque nous faisons une émission, quand même, qui a aussi une vocation un peu pédagogique. Oui. Donc, il serait bon de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent dans quelles conditions l'actuel président, donc Faure Yacimbe, a succédé à son père, Camille Anson-Body.
Oui, c'est en 2005, donc au décès du papa, il y a eu un coup d'État constitutionnel. La Constitution a été violée. Il y a eu une modification de la Constitution. La loi fondamentale qui a été votée par tous les Togolais en 1992 a été violée la nuit du décès du père pour permettre à Faure Gnassingbé de prendre le pouvoir. Oui. Et les Togolais, bien entendu, qui attendaient depuis 37 ans la fin du régime du père, n'ont pas du tout accepté cette prise de pouvoir violente. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je me suis senti violé. Parce que c'était une vraie atteinte à la liberté des Togolais.
Donc, Faure Gnassingbé arrive au pouvoir, il est contraint donc de s'en aller, de démissionner quelques jours après, sous la pression conjuguée de l'Union africaine, de la communauté internationale en général. Et puis, quelques semaines après, il y a une élection. Et Frère Yassine est élu dans les conditions que vous nous rappellerez dans quelques minutes, puisque nous allons continuer la discussion dans quelques minutes après une petite pause.
Le grand débat avec Francis Laloupo.
50 ans d'indépendance africaine, 50 émissions, c'est le grand débat avec aujourd'hui le bilan de 50 années d'indépendance du Togo avec nos invités Kofi Alouda, président du bureau provisoire du mouvement de libération du Togo, et M. Camille Lawson, président de Synergie Togo. Vous nous appelez maintenant, et encore maintenant, encore davantage, au 01 55 07 58 00 depuis la France, ou si vous appelez d'ailleurs, notamment d'Afrique, au 00 33 1 55 07 58 00. Camille Lawson Maudit, nous étions donc sur la chronologie de la crise togolaise en quelque sorte, mais avant cela, avant de prendre les auditeurs d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler au fond qui étaient et qui ont été les pères de l'indépendance du Togo?
Oui. C'est important de le savoir.
Les pères et les mères, éventuellement.
En effet, je ne les citerai pas tous, mais avec Sivalinus Olimpio, il y a quand même pas Augustino de Souza, c'est le sage par excellence qui a participé à la libération du Togo. Nous avons Martin Akou, Paulin Freitas, Paulin à côté. Nous avons Jonathan Savi de Tove. Nous avons Namoro Karamoko, Faré Diato, Théophile Mali, Monsieur Potra, le docteur Potra. Monsieur Thompson, et je vais citer aussi quelques femmes héroïques, Akosiwa Palo, Eunice Adambounou, oui. Et Confort Adrevo, et y en a beaucoup d'autres.
Il était bon de le rappeler parce que souvent on ne le rappelle pas suffisamment. On reste focalisé, je dirais effectivement. Il faut dire que le pays a été traumatisé un peu par l'assassinat de Olimpio, donc on a le sentiment que tout a commencé là. Mais le pays a connu une crise politique qui dure au fond. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 93, le pays a connu un boycott, un embargo pratiquement. L'embargo a été levé après les réformes qui ont été instaurées par l'actuel gouvernement et surtout le dialogue qui s'est instauré entre le pouvoir et l'opposition. Où en est aujourd'hui le dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la réconciliation a avancé au Togo?
Je ne pense pas. Je pense que.
Camille Lawson-Body.
Oui. Pendant plusieurs années, je dirais, du gouvernement de Faure Gnassingbé, en tout cas à partir de 2007, qui a connu les élections législatives au Togo, qui se sont globalement bien passées malgré quelques couacs dont on peut parler sérieusement. Oui. Le dialogue s'est instauré entre le pouvoir et l'opposition. Oui. Et il y a eu effectivement des organisations de la société civile, un peu comme justement
comme Synergie Togo que vous présidez,
que je préside et qui a permis ce dialogue. Il y a eu dialogue jusqu'aux élections sur lesquelles d'ailleurs on a travaillé à Synergie Togo, les élections de février 2010 qu'on espérait. Et le pouvoir était d'accord avec nous dans les discussions qui ont eu lieu avant les élections. Et on espérait justement que ces élections seraient libres, transparentes et démocratiques. Et
ces élections ont eu lieu en fait le 4 mars.
Tout à fait. Oui. Et malheureusement, les élections se sont très mal passées. Et aujourd'hui, il y a un blocage de nouveau entre le parti majoritaire au pouvoir et l'opposition togolaise.
Kofi Alouda, aujourd'hui, il y a un nouveau contentieux électoral, nouveau contentieux post-électoral. Est-ce qu'on peut dire que les fils du dialogue sont rompus entre le pouvoir et l'opposition?
Oui, alors je pense que, je rectifie déjà un peu la dénomination de notre mouvement, c'est mouvement du 4 mars pour la libération du Togo. Donc le 4 mars, en référence donc au hold-up électoral qui vient d'avoir lieu.
Oui.
Donc voilà. Maintenant, s'agissant de réconciliation, de rupture ou pas rupture, j'apporte un petit bémol quand même par rapport aux élections de 2007, les législatives de 2007.
Oui.
Nous autres, on considère qu'elles ne se sont pas bien passées. Parce qu'en fait, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que s'il y a élection sans mort, c'est que ça s'est bien passé. Donc on peut voler, on peut truander les résultats. Dès lors qu'il n'y a pas de mort, on dit que ça s'est bien passé. Oui. C'est comme ça que ce qu'on appelle communauté internationale, entre guillemets, veut nous faire avaler. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont voulu nous faire croire que les élections de 2010 présidentielles vont bien se passer, parce que celles de 2007 se sont bien passées. Et on s'est endormi dessus. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée. Sauf que l'élection présidentielle étant une élection plus critique, majeure.
Présidentielle.
Voilà, il y a protestation qui continue. Mais si on devait suivre la même logique, il devait y avoir aussi protestation pour ce qui est des élections législatives de 2007.
J'en ai écouté un auditeur, Jean-Claude, qui est en ligne.
Oui.
C'est à vous, Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui. On vous écoute.
Je vous écoute. Bon, écoutez, j'ai entendu les interventions de part et d'autre.
Oui.
Et je m'en vais dire que l'indépendance du Togo s'est faite dans des conditions, je dirais, difficiles.
Oui.
Parce que le président Sylvanus Olympio s'est battu, et je ne vais pas rentrer dans les détails, pour obtenir cette indépendance qui est très chère pour notre pays.
Oui.
Mais cette indépendance a été confisquée. A été confisquée dès la base. Dès la base. Et bon, tout a été faussé. On se demande si effectivement
oui.
le Togo a vraiment eu son indépendance. Et de la même manière, on peut l'élargir sur les autres pays. On se demande aussi si réellement les pays africains ont eu leur indépendance. Bien, après donc ces indépendances, il y a eu des systèmes politiques qui se sont succédés. Bien, il y a eu des systèmes, je dirais, autocratiques. Et après, on nous a parlé de démocratie.
Restons Togo, là, s'il vous plaît. Resserrons sur le Togo.
Non, je reste au Togo.
Resserrons sur le Togo, s'il vous plaît.
Toujours au Togo. On nous a parlé de démocratie. Mais les choses se mélangent. Et ça, à la veille de chaque élection, depuis le père Nyasimbe jusqu'au fils, le père Eyadema jusqu'au fils Faure, c'est les mêmes techniques de gouvernance.
Oui.
Bon, il y a ce qu'on appelle, partons à partir de Faure Gnassingbé, il y a ce qu'on appelle la répression. Et cette répression, c'est donc les forces de sécurité qui étaient censées assurer la protection du citoyen,
oui.
se changent pendant les élections, aussitôt après les élections,
oui, oui.
se change en force de répression.
Oui.
Et donc, les partis qui ont été concernés dans ces élections, tous ces partis-là n'ont plus la voix. Ils perdent aussitôt leur voix. On ne veut plus les entendre. Parce qu'il y a un laboratoire qui existe. Dans ce laboratoire, tout est étudié d'avance. Et on applique donc, je dirais, ces techniques-là. Et donc, ça s'élargit très vite partout dans le pays.
Ouais.
Et cette répression est suivie de violences où les populations ouais. souffrent.
Bien sûr.
Je dirais que sur le plan politique,
vous pouvez conclure,
sur le
s'il vous plaît.
Plan oui. économique, oui. sur le plan social,
le bilan, donc, hein, oui.
le bilan est négatif.
Très bien, on vous a compris, Jean-Claude. On revient donc en studio. Camille Lanson-Baudy, est-ce que la tenue d'élections au Togo, particulièrement, est un gage de démocratie, de vie démocratique?
Vous parlez du Togo?
Oui.
En effet, parce que je suis obligé de le préciser, parce que j'ai l'impression que le cas du Togo est tellement particulier que il y a vraiment besoin, quand on parle des élections, de préciser qu'on est au Togo. Non, disons que... Moi, j'étais au Togo pendant les élections présidentielles de mars dernier,
oui.
et j'ai suivi, donc, puisque je disais tout à l'heure que pendant près d'un an, nous avons travaillé avec le gouvernement, hein, en échangeant avec le gouvernement, les autorités, l'opposition,
oui.
ce comité international, pour que ces élections soient transparentes. Les gages, les éléments que nous avons posés...
Mais le pouvoir affirme qu'elles sont transparentes, qu'elles ont été transparentes.
Alors, on va commencer par parler d'abord de la liste
électorale.
Parce qu'ils
ne sont pas là, hein, les gens du pouvoir,
oui,
pour se défendre.
Oui,
donc,
oui malheureusement, ils pourraient prendre la parole, ils pourraient téléphoner pour qu'on puisse discuter avec eux. Mais on ne peut pas parler de transparence lorsque on constate la liste des nombreuses irrégularités qui ont entaché les élections de mars dernier. Ça ne peut pas être possible. Dans aucune république, on peut imaginer cela. À commencer donc d'abord par la liste électorale qui a été gonflée. On a donné les éléments au gouvernement en place en disant attention, voilà les éléments démographiques, du pays, on ne peut pas obtenir 80% d'augmentation dans des régions. Oui. On a 20% d'augmentation de la liste électorale.
On a des preuves de tout cela.
Bien sûr, nous avons des preuves de cela. Oui. Et avant même les élections, nous les avons dénoncé, ces éléments. Ensuite, on a parlé de transmission des résultats. On s'est mis d'accord, enfin, le gouvernement et l'opposition se sont mis d'accord sur des modes de transmission qui sont fiables.
Oui.
Malheureusement, la veille des élections, on les enlève. Et troisième élément, l'opposition essaie de prouver les résultats et essaie de compiler les résultats. On lui prend ses bulletins de vote. Oui. Alors, ces procès-verbaux de vote, ça pose vraiment un problème. On ne peut pas parler d'élections transparentes.
Quel est le climat aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'avant les élections, et même tout récemment, au moment de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Togo, c'est-à-dire le 27 avril dernier, cette semaine, le pouvoir a multiplié des gestes d'apaisement, notamment la réhabilitation de la mémoire de Sylvanus Olympio, par exemple. On a même entendu, le 27 avril, on a diffusé dans Lomé le discours, discours programme, je veux dire, presque le discours central prononcé par Sylvanus Olympio à l'époque. Et donc, je pense qu'il y a quand même des gestes qui sont posés par le gouvernement pour rompre avec les années de plomb, non?
Si je peux me permettre de revenir un peu en arrière.
Oui, non, mais juste avant de revenir en arrière, parlons du climat aujourd'hui.
Non, le climat aujourd'hui, il n'est pas bon. Enfin, ça a été toujours comme ça. Après un vol d'élection, on appelle toujours les gens qu'on fait la main tendue. Ça a été toujours comme ça.
Mais pendant des années, il faut dire que même la date de la célébration de la fête de l'indépendance a été déplacée et qu'on ne reconnaissait plus cette date-là. Et la mémoire d'Olympio, Sylvanus Olympio, a été totalement occultée, a été totalement bannie. Oui, comme je me souviens de certaines années au Togo, à Lomé, quand j'y allais, on ne pouvait même pas prononcer le nom de Sylvanus Olympio dans les rues de Lomé.
Oui, mais
aujourd'hui, cette mémoire est réhabilitée. Est-ce un geste fort du pouvoir ou pas?
S'il vous plaît. Non,
c'est
pas un geste fort du pouvoir. C'est parce que le peuple lutte. Ce n'est pas un cadeau venant du pouvoir. C'est parce que le peuple lutte qu'ils sont obligés de céder du terrain.
D'accord.
Donc, et voilà pourquoi nous autres, on pense qu'il faut continuer la lutte et il faut la réorganiser autrement pour arriver à instaurer effectivement un régime démocratique. Ça ne peut pas, ce n'est pas un cadeau et ça ne sera pas un cadeau.
Alors, revenez sur la question.
Alors, je reviens justement sur la question de l'élection et des listes électorales. Tout à l'heure, je disais que les élections législatives de 2007 se sont mal passées. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous disons qu'elles se sont mal passées, c'est justement à cause du découpage électoral.
Oui.
Et le découpage électoral est lié aux listes électorales dont parle monsieur Lawson.
Ne soyez pas trop technique.
Hein. Oui. Le découpage électoral a été fait de sorte que dans une région, enfin dans une partie du pays verrouillée, parce que d'accès relativement difficile, disons le Nord, 10 000 voix suffisaient à élire un député.
Oui.
Et dans une autre partie du pays, il fallait en moyenne 100 000 voix pour élire un député. Donc vous ne pouvez pas dire que les élections se sont bien passées dans ces conditions-là. Mais quand on est arrivé maintenant au présidentiel, c'est pour pouvoir pallier à ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Parce que c'est les élections présidentielles, c'est pas une question de découpage, c'est un scrutin majoritaire.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait gonfler la liste dans la partie justement qui est verrouillée, là où 10 000 voix suffisaient pour élire un député, puisque maintenant il s'agit pas, on peut pas tricher.
Et c'est ce qui a été fait.
Donc comment on peut
pas
tricher?
Selon vous?
Voilà, c'est cette technique. Comment on ne peut pas tricher? On a gonflé la liste de sorte que qu'on retombe toujours sur ses pieds à pouvoir faire élire quelqu'un.
À vous écouter, la fraude électorale est devenue bien sophistiquée.
Hein. Ah mais c'est de la sophistication.
Alors, il faut rentrer vraiment depuis le début de l'émission, nous faisons le bilan du pouvoir, faisons aussi le bilan de l'opposition. Cette opposition donc qui combat le pouvoir depuis des années, depuis des décennies maintenant. Que pensez-vous globalement des stratégies qui ont été initiées par l'opposition et pourquoi on a ce sentiment en fait d'échecs successifs et surtout de mauvais choix politiques qui ont été faits par une opposition, il faut le dire, assez divisée et qui nous a d'ailleurs surpris récemment par des comportements qui étaient assez étranges, paradoxaux en tout cas, quand on est à la conquête du pouvoir. On reviendra principalement sur l'affaire Gilchrist Olympio, opposant historique, qui aujourd'hui a un comportement à tout le moins troublant.
Je pense que l'opposition togolaise manque en effet de maturité. Et je vais vous dire, c'est relativement simple. Elle n'a jamais existé jusqu'aux années 90, dans la réalité, puisqu'elle a été réprimée de manière sauvage. Enfin, on ne pouvait pas parler d'opposition avant la conférence nationale de...
D'opposition visible et organisée, vous voulez dire.
L'opposition visible et organisée, j'entends, en effet. Parce que on faisait l'opposition dans sa cuisine, à deux, et évidemment, avec ça, vous ne pouvez pas avoir de stratégie qui aille loin. Oui. Aucune stratégie ne pouvait fonctionner jusqu'au multipartisme en 90, dans les années 90.
20 ans sont passés depuis.
20 ans sont passés
aujourd'hui,
depuis.
Et aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui?
Alors, pendant les 20 années qui sont passées depuis 90, je pense que l'opposition a manqué, en effet, il faut le reconnaître, de maturité, dans le sens où il fallait s'organiser assez rapidement. Mais je vais vous dire encore une chose. Sur le territoire togolais, ça continue d'ailleurs à l'être, hein, jusqu'à présent, le pouvoir en place s'est toujours organisé pour saboter toute velléité. Comment on organise une opposition? Il faut qu'une opposition soit financée, qu'il y ait des règles pour ça. Jamais aucune règle n'a été imaginée. C'est depuis 2005 qu'on peut parler de financement des partis politiques au Togo. Et ça, comment voulez-vous travailler dans ces conditions?
Et pourtant, la tension est très forte et très vive entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui la combattent depuis des années. Hein. Vous allez écouter Georges qui est en ligne.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Je suis très ravi de participer à cette émission et j'aimerais apporter ma contribution au débat et dire que le vrai problème du Togo se situe à deux niveaux.
Dites-nous.
Le premier niveau, c'est que l'opposition togolaise tarde à identifier l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un, c'est la puissance colonisatrice.
Oui.
Je veux parler de la France.
Oui.
Parce que le Togo a servi d'exemple pour mater toute velléité d'indépendance financière vis-à-vis de l'ancienne puissance française.
D'accord.
Donc, le Togo a été le premier à avoir tendance à à battre sa monnaie. Et donc, la France a réprimé fortement ses velléités pour empêcher la Côte d'Ivoire, le Dahomey et les autres pays de tomber dans ses travers.
Allez-y très vite parce que bientôt...
Le deuxième ennemi, c'est la manière dont la France, qui parraine le pouvoir en place, a participé à tribaliser l'armée togolaise. Il faut savoir que il n'y a qu'au Togo, parmi tous les pays francophones d'Afrique, où l'armée n'est pas nationale. L'armée représente l'ethnie du président en place. Et donc c'est entre cousins, entre parents, qu'ils se donnent le mot d'ordre pour réprimer la population et donc tuer toute organisation démocratique de l'opposition.
On a bien compris, Georges. Écoutez, on va très vite parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais on a compris votre explication. Nous allons écouter maintenant Wisdom, qui est en ligne. Monsieur Wisdom.
Oui, merci beaucoup de me passer la parole.
Oui.
Je salue mes compatriotes qui sont sur votre station.
Ils vous écoutent.
Ok. Je voulais juste dire à tout le monde que... là où on est à l'heure actuelle, n'intellectualisons plus le débat togolais.
Dites-nous alors.
Passons basiquement à une chose.
Dites-nous.
Quoi? Bon, ils ont tous dit comment les indépendances ont eu lieu, ce que le pouvoir en place avec Yadema 38 ans a eu à faire et 5 ans de fort.
Oui.
Aujourd'hui, on est devant au pied du mur.
Mais dites-nous aussi, effectivement, on n'intellectualise plus la question, quelle est la solution? Allez-y vite, hein, monsieur Wisdom.
La solution, elle est engagée à l'heure actuelle par ce que fait le FRAC sur le territoire.
Le FRAC, dites-nous, c'est qui le FRAC?
Le FRAC, c'est le fonds qu'on a monté la veille, entre les deux tours, s'il y avait eu deux tours.
Oui, d'accord.
Donc j'allais venir là-dessus par le fait que vous aviez demandé pourquoi le Togo, l'opposition tarde à uniformiser ou à parler d'une seule voix.
D'accord.
Sans jeter des fleurs aux Togolais, nous sommes assez loin de la démocratie par nous-mêmes, étant donné que on nous a interdit les deux tours.
Oui.
Donc, on a fait soi-disant des primaires internes.
Monsieur Wisdom, n'allez pas dans le détail, parce que dites-nous simplement quelle est votre solution, quelle solution préconisez-vous? C'est ça en fait votre intervention.
Mon solution, elle est toute simple. À l'heure actuelle.
Oui. Que faut-il faire?
Il serait hors de question qu'ils nous disent.
Que doit faire l'opposition?
Donc, à nous de continuer par nos manifestations.
D'accord.
À prouver qu'ils n'ont pas gagné. Un, qu'ils rendent les urnes volées de 2005, par exemple.
Oui.
Deux, qu'ils reviennent sur les bulletins qu'ils ont été récupérés au CESAL.
D'accord.
Concernant justement la compilation par le FRAC.
D'accord.
Ça commencerait déjà à nous permettre de leur pardonner certaines erreurs.
Eh bien, c'est clair. Écoutez.
Un concept qu'on a créé pour les élections.
D'accord. Okay.
Il y a un décret qui l'a éliminé. OK.
C'est très clair.
Mais faut qu'on leur fasse comprendre que ce n'est plus le moment de continuer à nous taper dessus.
C'est une stratégie de résistance, en somme, hein, pour résumer. Hein.
Et on a besoin de vous qui connaissez le Togo aussi et des autres à leur faire comprendre.
D'accord, monsieur Wisdom, et on a bien compris pour la stratégie du FRAC. On va écouter monsieur Franck.
Bonjour, monsieur.
Monsieur Franck, bonjour.
Oui, moi, vous savez, bon, accuser l'opposition aujourd'hui, c'est aller de mauvaise foi. Et je peux dire, tout le monde le sait, qu'au Togo, il y a deux sortes d'opposition.
Oui.
Il y a une opposition que nous connaissons très bien, qui travaille avec le pouvoir.
Oui.
Et là, je vais essayer de citer leur nom, M. Agbouibo, M. Ninevi, vous allez m'excuser. Mais le problème togolais, c'est un problème très très délicat.
Allez-y.
Et le premier problème, c'est le problème de l'armée. Et n'ayons pas peur aussi de dire qu'il y a un problème nord-sud, bien que nous nous entendons très bien.
Oui.
Mais moi, la solution que moi je préconise, c'est une solution à la guinéenne. Parce qu'au Togo, il faut un Toumba à la togolaise. Et excusez-moi d'aller loin, mais...
Quelle est la solution à la guinéenne? Je n'ai pas bien suivi.
Et je pense que ceux qui m'écoutent vont comprendre. Je ne vais pas aller loin. Parce que le peuple togolais...
Nous vous écoutons aussi, monsieur Franck.
Et le peuple togolais en a marre. Et si vous allez aujourd'hui à Lomé, je pense que vous qui avez vécu au Bénin, je suis né au Bénin également, vous allez avoir les larmes aux yeux.
Oui.
Et ce que moi je dis, j'encourage le FRAC à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras et à arracher une deuxième indépendance qui sera la vraie et la bonne indépendance pour le Togo. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Un commentaire, Camille Larson-Body.
Oui, pour répondre au dernier auditeur, je pense qu'il ne faut pas prôner la violence dans notre dans cette lutte-là. Cette lutte doit rester pacifique et ça c'est très important.
Oui.
Je pense que nous, en tout cas, Synergie Togo, on continuera à prôner le débat, la discussion avec le parti au pouvoir, mais il faut leur faire comprendre en effet, il faut faire comprendre au parti au pouvoir qu'il faut qu'ils démocratisent le pays, et c'est le plus important.
Mais il faut quand même pouvoir expliquer un jour, hein, c'est pas, on va pas le dernier débat aujourd'hui sur le Togo, heureusement, cette situation très particulière, les racines de cette crise qui dure et qui semble s'éterniser pour un pays qui est quand même coincé entre un Ghana et un Bénin qui sont reconnus comme des exemples de démocratie. Pourquoi le Togo n'arrive pas à faire sa mutation? Kofi Olaguda.
Oui, enfin, je l'ai déjà un peu dit au début, hein, enfin, le Togo a une particularité, c'est que il y a eu un crime de sang. Le crime de sang fait que l'opposition... mon collègue a parlé tout à l'heure de maturité politique. Mmh. Le crime de sang a fait que dans cette opposition qui s'est formée, les questions politiques faisaient partie, mais il y avait aussi les questions, je dirais, de révolte. Vous voyez, quand on se révolte, on n'a pas de recul, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour analyser froidement les problèmes.
D'accord.
Donc ça, c'est un des soucis. D'autant plus que, comme l'a dit un des intervenants, mais à cause de cette révolte, l'opposition a eu du mal à identifier l'ensemble des éléments qui concourent au problème togolais, notamment la puissance extérieure. Donc on est face, on est braqué face au clan qu'on a, parce qu'on l'a juste en face, mais on n'a pas de recul nécessaire pour comprendre qu'il y a des réseaux extérieurs qui sont aussi, qui ont aussi leur part très importante dans la crise togolaise.
L'explication est tout à fait claire.
Voilà.
Merci beaucoup. On va écouter M. Jérôme.
Oui, bonjour.
Allez-y, monsieur Jérôme.
Oui, rapidement, je vous dis que le problème togolais, c'est un problème très grave. Le Togolais est pris en otage par un clan familial, hein, qui ne connaît que la force, la brutalité, la violence. Tout le temps, l'opposition est divisée, mais cette fois-ci, l'opposition est unie.
Monsieur Jérôme,
on a tous les esprits du Togo dans cette
Jérôme,
opposition.
Est-ce que vous...
Le fait, c'est le fond révolutionnaire de l'alternance et le changement.
Monsieur Jérôme,
mais on a du nord au sud, tous les esprits du Togo réunis.
Monsieur nous Jérôme, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste de radio?
On est encore là à nous battre pour prendre le fauteuil présidentiel.
Étayez votre poste de radio, s'il vous plaît.
Ils n'ont pas gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que la brutalité. Quand on parle de César, quand on parle des arrestations, des femmes d'hier de 80 ans qui prient avec bougie en main,
oui,
Bible en main, on va les matraquer, les ramasser, les stocker à la gendarmerie, le lendemain on les relâche.
Oui.
Pourquoi? Et comme le ridicule ne tue pas, qu'est-ce qu'on entend dire? Ils prient pour que le président de la République meure. Ça veut dire quoi ça là?
Oui.
Donc, il faut que le monde entier comprenne que le Togo est un pays pris en otage par un clan et nous avons besoin du soutien du monde entier.
Merci
quant
beaucoup.
À la France, on connaît son jeu. La France n'a jamais voulu que le Togo soit un pays indépendant.
Merci.
Et il continue à soutenir la dictature. L'Union européenne a financé des élections au Togo avec 16 millions d'euros. Mais il en est sorti quoi? Une mascarade. Mais que dit l'Union européenne? Ils ont félicité celui qui a usurpé la victoire encore des Togolais.
C'est très clair, Jérôme.
Il était de campagne. On m'a arrêté la veille.
Très clair. On arrive à la fin de l'émission, Jérôme.
En prison jusqu'à à ce que les...
Merci beaucoup, Jérôme.
Même le résultat.
Merci, nous arrivons à la fin de l'émission.
Avant qu'on me relâche,
merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, au bilan du cinquantenaire du Togo. Merci à vous d'être venus. Ouais, on arrive à la limite. J'aimerais aussi, avant la fin de l'émission, exprimer à nouveau nos excuses aux auditeurs qui nous ont suivis hier. Et nous avions subi une coupure de courant tout à fait exceptionnelle et très, très rare dans la ville de Paris. Et ça a duré d'ailleurs toute la nuit. Et c'était comme une sorte de délestage. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des délestages. Il y a aussi, cela arrive aussi de temps en temps, dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà. Merci à vous, Kofi Alouda, président du bureau provisoire du mouvement de libération du Togo. Merci à Camille Lawson-Body, présidente de Synergie Togo. Merci d'être venu ici.
Merci.
Et c'est certainement pas le dernier débat sur le Togo. En tout cas, bon courage à vous.
C'est,
et bon...
c'est dommage, j'aurais pu ajouter une loupette positive. C'est dommage.
Alors, tu te plais en deux secondes.
En deux secondes, c'est que quand même,
le grand débat avec Francis Lalou et la participation de Guy Kalenda.
Représenté par le Front
après 50 ans de 38 passés sous le règne général.
Le grand débat.
Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été dans cette émission. Son fils fort Yabi, c'est un scandale aujourd'hui sur le deuxième mandat. C'est le grand débat avec Maxime.
Le
grand
débat. Le grand débat avec Francis Lalou.
À faire aboutir des stratégies.